RMC, face aux grandes gueules.
Face aux grandes gueules aujourd'hui, le lieutenant-colonel Franck Maillard, le sapeur-pompier. Bonjour mon colonel.
Bonjour.
Merci d'être là parce qu'on voudrait en savoir plus sur ce qui se passe en ce moment du côté de la forêt de Fontainebleau en région parisienne avec un feu très spectaculaire, inédit. Rendez-vous compte, on voit des canadairs sur la Seine. C'est inimaginable.
Des canadairs et des dash venir sur la région parisienne, c'était... C'est improbable. Pour autant, on s'y était préparé, parce que figurez-vous qu'il y a quelques années, on avait anticipé cette possibilité et donc on avait défini une zone pour ces fameux écopages sur la Seine. Donc, on y était quand même un peu préparé.
Oui, alors, ce qui se passe quand même est d'une ampleur inédite. Tout d'abord, le feu n'est toujours pas maîtrisé, il n'est pas fixé.
Ah, il est loin d'être maîtrisé. Il y a encore des flancs, parce que le feu se développe sur différents flancs, flanc droit, flanc gauche, et sur au moins l'un des flancs, la situation n'est pas maîtrisée. Et il est encore en train de se développer, effectivement.
Alors, c'est vrai que l'un des problèmes, c'est l'absence de chemin d'accès. Les pompiers ont du mal à évoluer.
Complètement, c'est dans les massifs du sud de la France, il y a de la DFCI, c'est la défense de la forêt contre l'incendie, donc ce sont des chemins qui sont prévus pour le gabarit de nos camions-citernes de feux de forêt. Là, sur la forêt de Fontainebleau, c'est plutôt des balades équestres, c'est plutôt des balades pédestres.
Il y a les rochers aussi, les fameux rochers.
Il y a les rochers, oui. Là, on est sur le massif des 25 bosses, très escarpé, très difficile pour nos sapeurs-pompiers. Et effectivement, pour y engager des camions et du personnel, ils vont passer de nombreuses heures délicates.
Parce qu'on n'avait jamais imaginé avoir à faire face à un tel incendie.
Il y a quelques jours, c'est la Sologne qui brûlait. On a eu dans le Cher, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Sologne qui a brûlé. On s'imaginait pas non plus qu'elle allait brûler un jour. Et quand on a vu arriver un dash dans le 18, dans le Cher, effectivement, ouais, c'est la première fois.
Incroyable. Combien de pompiers engagés?
Alors là, actuellement, à peu près 400 à 500 pompiers. Et puis, paradoxalement, ce sont nos collègues du sud de la France que l'on allait renforcer tous les ans, qui viennent cette fois-ci nous renforcer. C'est les Bouches-du-Rhône, c'est l'Hérault, c'est le 84 qui viennent également. Donc, une colonne complète qui monte sur Paris.
Tout à l'heure, Laurent Nunez, qui était sur place, le ministre de l'Intérieur, parlait d'un feu d'origine volontaire. Ça veut dire quoi?
Alors en fait, vous savez que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine, malheureusement. Soit le travail des agriculteurs, soit des mégots, soit... Et donc là, en l'occurrence, par rapport à la simultanéité des feux hier, en cette fin d'après-midi, le procureur mène effectivement... Il y a une enquête qui est en cours, mais c'est bizarre.
Plusieurs départs de feu.
Oui.
Qui laisse à penser que quelqu'un a allumé volontairement ses feux à divers endroits.
Alors la proximité immédiate avec les autoroutes, la 6 à 5, laisse supposer, comme on le voit souvent, un mégot négligemment jeté.
On lance au bord des routes,
ouais. Évidemment. Et d'autres feux dans le massif qui semblent plus suspects, effectivement.
Mais ce qui fascine, c'est quoi? C'est la pyromanie? Est-ce qu'il y a l'intérêt de mettre le feu à Fontainebleau?
Alors quand c'est les mégots...
Non, pas les mégots, c'est accidentel, mais là vous dites si c'est volontaire.
C'est quelqu'un qui n'aime pas du tout Fontainebleau.
Fontainebleau-phobie.
C'est quelqu'un qui... Voilà.
Mais vous savez, pour beaucoup de personnes viennent assister à nos interventions, ils sont derrière nous pour voir les flammes.
Oui, il y a une fascination.
Regardez les images derrière vous, c'est
donc
impressionnant.
Donc il y a la fascination du feu.
Probablement.
Il y a même eu des pompiers pyromanes dans l'histoire.
Oui, il y en a eu, malheureusement, on le déplore. Mais on a 250 000 pompiers chez nous, donc on a un peu tout le panel de la population française et on doit avoir des pyromanes, malheureusement.
Question sur les moyens, parce que tout à l'heure, on s'est interrogé Jean-Loup.
Mais quels sont les moyens que vous aimeriez avoir en plus, dont vous auriez besoin en plus?
Là, actuellement, on va faire un point après cette saison. On a des moyens aériens qui sont prépositionnés sur l'ensemble de la France. Aujourd'hui, malheureusement, notre flotte, qui était composée d'une douzaine de canadairs et autres dash, il doit y en avoir 8, était tous sur le pourtour méditerranéen, là, avec les feux qui se développent dans toute la France. Cette répartition fait que on a un avion par-ci, un avion par-là, et quand il y a un feu, on n'a plus la même force de frappe qu'on l'avait dans le sud de la France.
Donc il faudrait plus de canadairs avec une répartition géographique différente.
Alors, je suis pas persuadé que ce soit le canadair le plus adapté. Okay. Sur le Loiret, hier, ce sont des hélicoptères qui ont fait un travail taille remarquable, avec une espèce de petite piscine là qui délivre à chaque fois 1000 litres d'eau sur des zones très compliquées d'accès, comme à la montagne ou comme c'est le cas aussi sur Fontainebleau. Et ça peut être tout aussi efficace.
C'est la particularité française d'ailleurs. On n'a pas que des Canadair aussi.
Alors on loue une flotte. Alors on a les Dash hein, qui ont une grosse capacité. Souvent eux déversent du retardant. Vous savez ce produit rouge qui stoppe normalement les flammes. Et puis on loue des hélicoptères bombardiers d'eau. Donc qui sont aussi répartis judicieusement et qui sont également une force de frappe importante.
Mais dites-moi, ce chiffre est quand même impressionnant, celui qui a été donné justement par Nunez tout à l'heure. 32 000 hectares parcourus depuis le début de l'année en France.
On a connu des années aussi compliquées, hein, mais cette année, elle est vraiment...
Et on n'est que le 12 juillet, enfin le 13 juillet, c'est-à-dire
oui, que... Oui, et quand vous rajoutez en plus la canicule, parce que au-delà des incendies, nos pompiers sont également en première ligne pour la canicule, parce qu'on a des malaises, on a des personnes qui font des malaises sur la voie publique et chez elles. Et donc,
il y a des rêves partis aussi.
Oui, j'ai vu ça, oui, dans l'ouest de la France.
Ça, on ne sait pas quand même.
Ben pour l'instant ça se passe bien. Pour autant, oui, c'est rajouter un risque. Et...
Non mais pardon, je dis ça parce qu'on a annulé par exemple les bals de pompiers à Paris.
Oui, c'est une première. Hein. Je n'ai jamais connu ça. C'est assez exceptionnel.
Moi, pardon, ça m'a choqué.
Comment vont faire les gens pour pécho?
Voilà. Ah, déjà, comment on va faire Charles pour pécho? Mais non, mais ça m'a choqué parce que
moi,
c'est quand même c'est une fête populaire les bals de pompiers. C'est gratuit et puis c'est quelque chose, c'est une tradition française. Et on supprime ça alors que c'est très encadré dans des casernes, alors qu'on laisse une rêve partie se dérouler. Je trouve que les messages quand même sont envoyés. Qu'est-ce qu'on craignait avec le bal des pompiers?
Alors c'était en partie lié avec la consommation d'alcool sur la voie publique.
Oui.
Même si il avait été prévu de ne pas délivrer d'alcool dans les bals, mais après c'est une décision.
Je pense que c'était trop chaud pour boire, c'est ça.
Je pense qu'aussi à un moment donné on est en vigilance rouge. Vous savez quand on est en vigilance rouge météo orage, ben les gens ne sortent pas. Là on doit prendre des précautions, éviter que les gens ne fassent des malaises. Je pense qu'on a aussi un rôle.
Ils ont souvent plus chaud. Sincèrement.
Vous avez raison. Chez eux.
Parce que là, les balles de pompiers, c'est le soir.
C'est le soir et dehors, oui, dans la cour de la caserne.
À la limite, dehors, dans la cour de caserne, à 22h, 23h, on est peut-être mieux que chez soi. Enfin bon, ça m'a surpris comme décision.
Et puis, il faut aussi penser qu'ils sont amenés à intervenir et faut préserver les... Là, actuellement, on a beaucoup de sapeurs-pompiers de Paris qui sont sur le feu de Fontainebleau.
C'est un bon argument.
Et à ce titre, c'est aussi pour qu'ils puissent se reposer.
Fatima et Benoît. Alors Fatima, qui n'aime pas les pompiers, nous l'a dit tout à l'heure, elle dit s'il y a bien une profession que je déteste, c'est les pompiers.
Comme souvent, c'est le cas.
C'est l'inverse. Donc d'abord, merci, bravo. Et l'inverse que je disais à Olivier, c'est que j'aime beaucoup les pompiers. J'admire les pompiers.
Elle voudrait que ses enfants soient pompiers.
Ah. Non, mais oui, j'ai deux garçons. La dernière fois, je leur disais, vous aimeriez être pompier. C'est quand même, je trouve qu'il y a une grandeur dans cette mission. Et je trouve ça très beau. Et je trouve qu'on parle très peu des pompiers ou uniquement quand il y a des incendies ça. Oh, regardez, on vous invite.
Majoritairement, ce sont des volontaires, les sapeurs-pompiers.
Mais c'est vraiment, je trouve qu'il y a une grandeur d'âme derrière ça. Et donc, moi, vous savez, je suis très sensible à la grandeur des petits, ceux qu'on invisibilise et qui font. La France tient sur ça, sur les infirmières, les aides-soignantes, les pompiers, les policiers, les profs, ceux qui sont sur le terrain au quotidien et où leur terrain, c'est ça, c'est de maintenir, c'est de guérir, c'est de protéger, de soigner au service des autres. Donc, vous avez vraiment toute mon admiration.
Merci.
Ma question, est-ce qu'il y a moins d'abus? C'est-à-dire, pendant tout un moment, on disait que les gens appelaient les pompiers un peu pour rien, qu'il y avait des abus dans le fait d'appeler, non pas pour des incendies, mais pour un chat, un problème secondaire. Est-ce que vous avez constaté que les gens sont plus responsables, au moins en ce moment, ou pas du tout?
Alors, en fait, avant, il y avait la gratuité de toutes les interventions des sapeurs-pompiers. On a rendu certaines interventions payantes. Je pense notamment aux destructions de nids de guêpes, de nids de frelons, les dégagements des personnes coincées dans les ascenseurs. Donc, ce qui fait qu'on est moins sollicité, mais on est souvent là en dernier recours, en fait, hein. Quand il n'y a pas de solution, une porte est claquée, il y a l'enfant à l'intérieur de l'appartement, le serrurier va venir au bout de 2-3 heures, donc c'est les pompiers et on sera là dans les 10 minutes avec la grande échelle et on va ouvrir la porte. Donc c'est vrai que aujourd'hui on claque des doigts et les pompiers sont là. Donc mais les mentalités ont changé.
D'accord.
On ne nous appelle plus pour les mêmes futilités que ce qu'il y avait il y a encore quelques années.
Et
donc ça s'est arrangé.
Et vous avez vu ce qui a permis de changer les mentalités, c'est le fait de rendre payant. C'est
alors,
ça fait à peu près combien de temps? Une dizaine d'années que ça a commencé à changer?
Ça fait une dizaine d'années, oui. Alors, le fait que ce soit payant, et puis après, au niveau du centre de traitement de l'alerte, on sélectionne aussi, hein, on essaye d'être plus attentif à la nature de l'appel. C'est le cas pour les interventions que l'on qualifie de diverses, hein, interventions particulières, mais c'est également le cas pour le secours à personne. On est plusieurs sur le marché à intervenir, hein, pour le secours à personne. Il y a les ambulances privées, il y a les médecins, il y a les pompiers. Donc là, c'est pareil. Avant, pour le moindre problème à domicile, la douleur à la cheville, le mal de ventre, c'était les pompiers. Maintenant, c'est mieux filtré avec des centrales 18, 15, 112, où là, on filtre les appels et on envoie le secours le plus adapté.
C'est bien, donc ça fonctionne mieux.
Ça fonctionne mieux, oui, beaucoup mieux.
Donc là, on est sur ce feu de Fontainebleau, mais il y a des feux. Je regardais la carte, d'ailleurs, on peut les suivre sur Internet, hein, en temps réel, les incendies. Il y en a un peu partout en France. On parle beaucoup de Fontainebleau, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas médiatisés, pas seulement dans le Sud. Comment on fait pour répartir toutes les forces en présence?
Alors, n'oublions pas qu'on a deux feux majeurs dans la Drôme et puis dans les Jeux, hein,
qui sont toujours pas finis.
Hein,
pas terminés.
On a eu un feu important en Loire-Atlantique. Ça brûle également dans le Nord, dans le Pas-de-Calais. Enfin, toute la France est couverte. Donc, on a pour les moyens, comme pour les moyens terrestres, comme pour les moyens aériens, c'est une décision qui est prise au ministère de l'Intérieur de déplacer soit des moyens terrestres vers des secteurs les plus adaptés où ils vont pouvoir, à proximité d'un nœud autoroutier, converger vers des départements qui sont en danger. Et puis on a sur Nîmes notre centre national de coordination des moyens aériens. Et chaque jour, on positionne les engins un peu partout en France, à Châteauroux, à Angers, pour avoir un moyen le plus adapté rapidement.
Question de Charles.
Non, là, à Fontainebleau, c'est quel pourcentage de la forêt qui a brûlé ou qui va brûler selon ce que vous pouvez estimer?
Ben là, ce matin, on était à 5-7% de la forêt, de la surface de la forêt, ce qui est quand même énorme. Le feu continue à se développer. On devrait, je pense, atteindre les 1000 hectares. Il y a encore une centaine d'hectares qui sont menacés et sur lesquels on n'a pas forcément encore pu engager des moyens terrestres.
Le feu va durer plusieurs jours?
Ah, largement, oui. On est parti sur au moins une semaine.
Au moins une semaine.
Alors, attention,
de la forêt va disparaître?
Alors là, j'en ai aucune idée parce que ça, c'est grâce aux actions simultanées des pompiers sur le terrain et les moyens aériens. Donc, on va tout faire pour le limiter au maximum. Mais entre l'extinction, le fait que le feu soit fixé jusqu'à ce que on ait des actions pour éviter que les petites fumerolles ne puissent repartir, redéclencher l'incendie. Ouais, on est sur une dynamique à une semaine, ouais, au moins.
Ah oui, on sait
pendant
déjà.
Pendant une semaine, il y aura de la fumée sur Fontainebleau.
Et ensuite, on surveille pendant combien de temps un feu qu'on a maîtrisé?
Alors après, c'est le rôle du commandant des opérations de secours d'effectuer des reconnaissances. Maintenant, on a les drones. Alors c'est plus rapide pour avoir une vision globale avec des dispositifs infrarouges. Une fois qu'il n'y a plus de fumerolles, on désengage progressivement le dispositif et il risque d'y retourner régulièrement. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de départ de feu. Hein. Ça, c'est clair, on y est pour au moins une semaine.
Ouais. Là, il y a le vent aussi.
Oui, qui joue pas en notre faveur.
Qui est assez important, hein, notamment en région parisienne, ça aide pas.
D'ailleurs, pour la petite histoire, hier soir, juste après le départ de feu, les DASH sont venus sur le secteur et ont mis cette barrière de retardant là pour stopper le front de flamme à proximité de maisons. Et pour autant, avec le vent, et le feu génère aussi un vent, génère son propre vent. Et on a eu ce qu'on appelle une saute de feu jusqu'à 400 mètres. Donc c'est passé au-dessus de la barrière de retardant et 400 mètres plus loin, ça repartait. Donc parfois, on peut être désemparé parce qu'on est survolé par ces débris incandescents qui vous reprennent derrière et du coup, il faut remettre en place le dispositif. Ça, c'est compliqué.
Vous parlez des maisons, il y a beaucoup de personnes qui ont été évacuées.
Eh ben écoutez, j'avais le bilan de à peu près 1000 personnes évacuées de chez elles dans des salles communales. Donc là, les maires ont mis en place leur plan communal de sauvegarde avec des...
À quel moment elles pourront retourner chez elles? Quel est le scénario possible?
Bah là, en fonction des risques de reprise. Là, actuellement, les axes sont bloqués pour faciliter le travail des pompiers, pour que les camions puissent circuler librement. Donc là, elles vont rester, à mon avis, un jour ou deux, peut-être. Hein. Et ça, c'est pareil, c'est une décision du commandant des opérations de secours qui décidera du fait que la maison ne risque plus rien.
On peut refuser de quitter son domicile. On entend toujours dans les reportages des gens qui disent « Ah non, moi, je préfère rester là pour sauver ma maison. » J'imagine que ça doit arriver souvent, ça.
J'ai plein d'exemples en tête. Dans les PO, encore récemment, les pompiers retournaient sur place pour se préoccuper des gens qui étaient restés. Alors, vous savez qu'on est quand même protégé dans sa maison, hein, sauf si on est sur un habitat en plastique, un bungalow, où là, on risque d'y rester. Mais quand on a une maison en dur, en fait... au lieu de fuir et d'avoir des drames comme on peut l'avoir en Espagne, parfois il vaut mieux rester dans sa maison. Une fois que le feu est passé, en fait, on est protégé.
C'est malgré les fumées.
Malgré les fumées. C'est la stratégie que l'on met en place dans des points sensibles, dans les feux à forte dynamique.
Parfois, il faut mieux rester chez soi. C'est de prendre la route et fuir les flammes.
C'est sur ordre, en fait. Là, quand les services publics, les forces vous disent de partir, c'est qu'ils ont estimé que c'était dangereux. Donc, il ne faut pas se poser de questions. Parfois, on n'a pas suffisamment de moyens pour protéger tous les points sensibles. Et là, on demande aux gens de rester chez eux.
Ouais. Et celui qui refuse de partir, vous avez les moyens de le contraindre ou c'est lui qui décide ?
Ah, souvent, on les contraint, mais il y a des moments où on est tellement pris par le feu que la négociation n'est plus possible. Donc, suivant la vulnérabilité de la personne, on peut parfois l'emmener de force, mais il y a des moments où on ne peut pas aller au-delà et on laisse les gens sur place. Mmh. C'est assez exceptionnel.
Ouais. Une dernière question. Il a beaucoup plu cet hiver, donc la végétation est très présente. Et malheureusement, c'est ça aussi qui brûle, c'est-à-dire qu'il y a plus de choses à brûler.
Oui. Et puis en plus, on a vu avec les tempêtes, hein, on a parfois des branches qui sont tombées. Alors la forêt de Fontainebleau semble bien entretenue. Par contre, on a pas mal de massifs en France où ce n'est pas le cas. Et donc, on a toute cette strate arbustive qui est en mauvais état, qui brûle bien et dans laquelle on a du mal à s'infiltrer. C'est comme des ronces. Donc, faire rentrer des pompiers dans les ronces, c'est impossible.
Oui, les landes, c'était très mal entretenu, c'est ce qu'on avait dit.
Alors, à l'époque, les landes étaient mal entretenues et donc les pompiers...
Ça veut dire quoi, mal entretenu ?
En fait, les pompiers avaient du mal à rentrer dans les massifs. Pour autant, ils avaient des voies d'accès, et c'est ce qui fait peut-être défaut aujourd'hui à Fontainebleau, c'est que dans les Landes, il y a des grands chemins qui séparent les parcelles, et au moins là, ça permet d'éviter la propagation d'une parcelle à l'autre. Là, ça semble vite se propager d'une parcelle à l'autre à Fontainebleau.
Merci mon colonel d'être venu, colonel Franck Maillard, pour nous raconter ce qui se passe en ce moment en région parisienne. C'est totalement inédit, des canadaires qui viennent prendre de l'eau sur la Seine, ça, on ne pouvait pas le penser, malheureusement, c'est le monde actuel et ça va sans doute se reproduire dans les étés qui viennent. Enfin,
malheureusement, je pense.
On a changé d'époque, comme on dit. Merci en tout cas d'être venu face au GG.